Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 163 et je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors sujet un petit peu différent cette semaine dans Europa Voice puisque vous devez le savoir, hein, le monde va avoir un nouveau pape. Pape François est décédé, mais ce pape avait une relation un peu particulière avec l'Union européenne et c'est assez rare pour pouvoir pour nous de devoir le souligner.
Oui, effectivement, Christophe. Alors, le pape François, en fait, était un drôle de personnage parce qu'il était à la fois ni dans la case de ceux qui voulaient voir en lui la continuation de ses prédécesseurs, notamment Jean-Paul II et Benoît XVI. Il n'était pas non plus dans la case de ceux qui voulaient voir une rupture totale avec le conservatisme de l'Église. Ça, c'est, j'allais dire, de manière générale durant
Il avait un certain conservatisme progressiste.
Il était un peu le en même temps.
C'était
le pape du en même temps, donc très 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 à la mode. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que entre le pape François et l'Union européenne, la relation qui s'est développée était vraiment une relation, je dirais, bienveillante, avec des exigences d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, c'était quelque chose de constructif. Et ça en dit d'ailleurs beaucoup plus sur le pape qui a, j'allais dire, remis une diplomatie active au niveau du Vatican. Mais évidemment, nous, dans Europa, ce qui nous intéresse, c'est la relation à l'Union européenne. Et on peut dire que le pape François, voilà, a su redynamiser d'une certaine façon, notamment après Benoît XVI, la relation entre le Vatican et l'Union européenne.
Comment il était reçu à la table des plus grands, j'allais dire, tous les chefs d'État européens, au niveau des dirigeants européens? Il y avait une véritable discussion qui pouvait s'engager?
Alors déjà, il était beaucoup reçu parce que sur 47 visites pastorales internationales du pape François, un quart de ces visites ont été effectuées dans les États membres de l'Union européenne.
D'accord.
Donc c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que le pape François était beaucoup reçu par les dignitaires européens. Il y a certains pays d'ailleurs, Christophe, que le pape François a visité plusieurs fois. C'est le cas de la France. Il est venu à Strasbourg en 2014.
Donc c'est un petit vraiment cocorico strasbourgien pour vous.
Alors strasbourgeois pour vous. C'est un cocorico Strasbourg, mais c'est aussi un cocorico Union européenne, hein, Parlement européen. Donc en novembre 2014, en septembre 2023 à Marseille et en décembre 2024 en Corse. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que décembre 2024, la Corse, c'est aussi son dernier voyage officiel. Mais il y a dans d'autres pays où le pape François s'est rendu plusieurs fois. Évidemment, je mets l'Italie dans l'Union européenne un peu à côté. Mais voilà, en tout cas, le pape François a montré beaucoup de proactivité dans le dynamisme et la relation qu'il a voulu réinstaurer avec l'Union européenne. Et
on sait que les papes qui se sont succédés, qui se succèdent, ont toujours un message de paix. Aujourd'hui, en tant que messager de la paix, c'était quoi sa position par rapport à l'Ukraine, par rapport à ce qui se passe avec la Russie, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec les États-Unis? Enfin, on sait qu'une de ses dernières visites, c'est J.D. Vance. C'est en tout cas l'une des dernières visites officielles avec le pape. Ça a duré que quelques minutes, mais en tout cas, c'est assez marquant. C'était quoi la position papale avec la paix ou la guerre en Ukraine?
On va mettre de côté J.D. Vance parce que je pense que le pape, à ce moment-là, le pape François était déjà malheureusement sur le déclin et diminué. Sur l'Ukraine, Christophe, ce qui est intéressant, c'est que la position du pape François, à défaut d'avoir été, elle était en tout cas perçue comme assez ambiguë. Le pape François, il a pris position sur l'invasion russe très rapidement. Parce que ça a marqué le retour d'un conflit, évidemment, sur le sol européen. Il a appelé, dès le début de ce conflit, à un arrêt des combats et à une résolution diplomatique du conflit. Donc, on était parti, j'allais dire, sur quelque chose d'assez logique et d'assez, d'ailleurs, aligné sur l'Union européenne. Le problème, c'est que le pacifisme que le pape François a voulu distiller à travers ses messages sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine a quelquefois semblé un petit peu déconnecté de la situation sur le champ de bataille. Il avait d'ailleurs appelé en mars 2024 à Kiev à avoir le courage de hisser un drapeau blanc et de négocier avec la Russie. Donc en fait, malheureusement, le message pacifiste du pape a pu être perçu aussi comme un abandon d'une certaine façon de ses frères ukrainiens. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le narratif justement sur la guerre en Ukraine, très vite, le Vatican et pas le pape seulement, mais le Vatican a repris un peu le dessus sur la communication vis-à-vis de l'Ukraine. Mais je crois que c'était plutôt un faux pas. Et le message du pape. C'était une maladresse. Le message du pape, c'était véritablement un arrêt des combats et une résolution à défaut d'être pacifiste, mais diplomatique de ce conflit.
Et sur le conflit en Israël et en Palestine ?
Alors, le pape François a eu quelques mots qui avaient fait polémique, d'ailleurs, sur Jésus. Et les origines palestiniennes de Jésus, il avait parlé du kéfier, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pape François, finalement, a été plus timide sur ce dossier-là, par exemple, que sur l'Ukraine et la Russie dont on a parlé. Non pas qu'il n'en ait pas parlé, mais on avait l'impression qu'il n'a pas voulu non plus, ou en tout cas qu'il a voulu banaliser ce qui se passait. Alors évidemment, il a pris position sur ce qui est en train de se passer là, le conflit depuis et la guerre depuis le 7 octobre 2023, mais c'est encore une fois, c'est à la fin de son pontificat. Le vrai message du pape sur ces questions-là, sur la question d'Israël et de la Palestine, et sur la question en fait des migrants de manière plus générale, c'est la question de la générosité, c'est la question d'où l'ouverture. Et ça a été véritablement un point d'ancrage des discours du pape, de vouloir démontrer une solidarité, un engagement sans faille envers les migrants. Rappelez-vous-en, Christophe, il avait eu des mots très durs vis-à-vis des phénomènes de mondialisation. Il avait dénoncé la mondialisation de l'indifférence par rapport au sort des migrants. Il avait aussi dénoncé régulièrement la Méditerranée comme un cimetière. Il s'était rendu d'ailleurs plusieurs fois dans des points de passage entre le monde extra-européen et le monde européen, notamment je pense aux îles de Lesbos en Grèce, Lampedusa évidemment. Donc le pape François a véritablement voulu jouer un rôle sur cette question des migrations, des migrants et de la solidarité envers ceux qui cherchent un avenir meilleur.
Alors on sait que le remplacement, et même si aujourd'hui le Vatican est toujours en deuil, et bien le remplacement est en marche, on va dire. L'importance de l'Église de choisir le bon pape pour la prochaine étape. Parce qu'on est, on le sait, tout le monde va vous le dire, on est dans une période un peu difficile à travers le monde. L'Église a un jeu, le Vatican en tout cas, a un rôle à jouer sur le choix de ce pape. Où est-ce que l'Église, où est-ce que le Vatican doit rester en dehors de ça? Est-ce qu'il y a un message à lancer, ou est-ce que, à votre avis, le Vatican doit rester en dehors de ça et continuer dans sa lignée?
Il y a une portée...
Sur le choix du prochain pape.
Hein. Oui, sur le choix du prochain pape, Christophe, il y a forcément une portée, j'allais dire, à la fois politique et symbolique. Si on revient juste sur le pape François, c'est quand même le premier non-européen à occuper cette fonction de pape depuis près de 1300 ans. Donc c'est aussi un message.
Ça va.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un message.
Il était argentin.
Et donc c'est aussi un message du Saint-Siège, c'est un message du Vatican qui est porté au monde, qui est, j'allais dire, un message aussi avec une vision démographique. C'est aussi donner là où il y a le plus de fidèles, quelque chose qui les représente. C'est dans l'air du temps aussi d'être représenté dans les instances dirigeantes, quelles qu'elles soient. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que l'Église va revenir à une espèce de conservatisme et nommer un énième pape européen, ou est-ce que l'Église va rester, j'allais dire, alignée avec ce qu'elle a fait avec la nomination du pape François, et nommer un pape non européen. Et on pense, il y a évidemment l'Amérique du Sud, mais
l'Afrique.
Il y a deux continents en zone géographique qui reviennent. Il y a l'Afrique, effectivement, Christophe.
Et l'Asie avec les Philippines.
Et l'Asie, effectivement.
J'ai lu un petit peu quand même.
mais donc c'est intéressant, parce que les 1,4 milliard de fidèles catholiques à travers le monde, ils ne sont pas tous en Europe, et ils sont
de moins en moins loin de là,
en Europe. Donc il y a cette question-là qui joue, mais il y a aussi évidemment, encore une fois, la question... du positionnement de ce pape-là, des valeurs de ce pape-là. Et comme on l'a dit, avec pape François, il y avait une espèce de, à la fois de satisfaction de tous les côtés, de non-satisfaction. Il était difficilement rangeable dans les cases ou du conservatisme ou du progressisme. Il était dans cette, en même temps, très dans l'air du temps.
Absolument. Allez, on fait une courte pause, et quand on revient dans la deuxième partie d'Europa Voice, on parle de quoi ? Des élections en Australie. Il nous reste une semaine pour en parler. À tout de suite.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Europa Voice, deuxième partie, et on va parler bien entendu des élections qui arrivent une semaine. Les élections australiennes auront lieu le 3 mai 2025 et on n'en sait pas beaucoup plus, ça se départage pas vraiment. Il y a malgré trois débats je crois qu'il y a eu télévisuel, ça se départage pas tellement, on est toujours un peu scindé au milieu quand même.
Alors on a des tendances quand même, Christophe.
On sent que c'est un peu dur pour Dutton. Quand même.
Voilà,
ça devient, pédale un peu dans la semoule quand même.
Ça devient dur, de plus en plus dur pour Dutton et la coalition. Et on est plutôt sur une pente positive pour Albanese et les travaillistes.
Donc même... aujourd'hui, juste pour interrompre, ouais. Vous êtes Anthony Albanese. Il vous reste une semaine de campagne. Est-ce que vous êtes communicant, hein, c'est votre métier, Nathanaël. Est-ce que le message c'est on fait pas de vague? On la surfe et on fait pas de vagues.
Alors je ma casquette effectivement de communicant. Je pense qu'on fait le strict minimum. Il faut pas non plus rien faire. Il y a trois scénarios. Il y a vous en faites trop. Si vous en faites trop, vous êtes Albanese, vous êtes en tête des sondages, vous êtes aussi ce qu'on appelle un incumbent, c'est-à-dire que vous avez été en poste, c'est toujours plus facile, hein, puisque vous avez pu marquer de votre empreinte pendant 3-4 ans, etc. Si vous en faites trop, c'est le risque aussi d'aller sur des terrains de communication, des terrains politiques qu'on va vous reprocher et vous n'avez aucun intérêt à occuper trop l'espace. Vous ne faites rien, c'est aussi un travers dans lequel Albanese ne peut pas tomber pendant cette dernière semaine. Parce que si vous ne faites rien, vous avez l'opposition, la coalition Dutton qui va, ce qu'on appelle, préempter tous les sujets qui peuvent lui être bénéfiques. Je pense notamment à la sécurité, à l'économie, au taux d'intérêt, etc. Donc ne rien faire,
c'est aussi le coût de la vie.
Voilà, le rien faire, c'est aussi prendre le risque que quelqu'un d'autre occupe votre place. On est encore dans le en même temps. En tout cas, on est dans le milieu. C'est-à-dire qu'il faut faire le strict. Quand je dis il faut faire, c'est je mets dans les baskets d'Anthony Albanese. Il faut faire le strict minimum.
Mais il écoute, hein, il y a pas de.
Je sais très bien. Albanese est le premier auditeur de Europa Voice en français. C'est vers le strict minimum pour assurer en fait cette avance, parce que le Labour a quand même de l'avance sur Dutton, et surtout avec les reports de voix et les préférences, a toujours cette avance pour le deuxième tour. Là, ce qui est assez malin, c'est que Dutton a tapé très fort et pendant très longtemps sur l'inconsistance du Labour à s'associer avec les Verts, en leur reprochant aux Verts leur extrémisme, etc. Et donc que voter Labour finalement c'est voter pour les Greens. Et si vous regardez un petit peu les journaux, Christophe, et si les auditeurs d'Europa Voice d'SBS regardent un peu les journaux, c'est difficile de savoir quelle est la position officielle du Labour sur cette question-là. Il y a un peu du cas par cas. Et donc si c'est difficile de la voir pour nous auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, etc., c'est aussi difficile pour Dutton de le critiquer, parce que vous avez certains candidats qui sont en totale rupture, vous avez d'autres candidats qui pour le coup donnent directement leurs préférences et l'affiche complètement, en parle publiquement. Donc en fait, Dutton, là où je trouve qu'il a perdu beaucoup d'avance, c'est qu'il a mis beaucoup d'efforts à critiquer les alliances politiques des travaillistes avec les Verts, et que ça ne lui, pour moi en tout cas, à l'heure actuelle, pas porté bénéfice du tout.
Ouais, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer dans la dernière semaine. Est-ce qu'il garde cette carte pour essayer d'éclaircir la question et d'éclaircir le sujet sur la dernière semaine, ou encore une fois, faut rester un petit peu évasif et que pour l'instant ça se passe pas trop mal, donc du coup on reste un peu comme ça quand on est Labour?
Il y a trois éléments. C'est d'abord, en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui ont voté. À l'heure où on se parle, il y a déjà, donc Anzac Day, il y a plus d'1 million d'Australiens qui ont déjà voté, puisque en Australie, rappelons-le pour nos auditeurs peut-être moins habitués avec le système électoral ici, on peut voter plutôt.
Déjà, le vote est obligatoire, voilà. Donc du coup, il y a des arrangements qui sont trouvés.
Il y a des arrangements qui sont trouvés. On peut voter plutôt dans des bureaux de vote. Donc déjà, il y a une partie de la population qui n'est plus à convaincre puisqu'elle a déjà voté. Le deuxième élément pour les travaillistes, qui à mon avis leur bénéficie, c'est qu'on est aussi, et ça d'ailleurs, il l'avait fait exprès, Albanese, au moment où il a déclaré ces élections-là. Il les a déclarées, grosso modo, avant les vacances de Pâques, avant les vacances scolaires de Pâques. Et puis là, on est dans la fin du long, enfin, on est dans le début et la fin de cette période de vacances, d'un long week-end. Donc en fait, en vrai, en termes d'intérêt des Australiens pour la politique, pour la campagne, il va rester 5 jours en début de semaine prochaine. La seule chose qui puisse arriver, et on n'est jamais à l'abri de ça, c'est un gros événement qui chamboule un peu tout l'agenda. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une déclaration de la Banque centrale, ça peut être un événement exogène qui dérange un peu l'ordre établi. Mais c'est quand même très improbable. Donc, la question là pour Dutton et les libéraux, c'est vraiment, pour moi, hein, encore une fois, de prendre un ou deux sujets qui sont peut-être les plus rassembleurs ou qui peuvent parler au plus grand nombre de leur, et de leur électorat à la coalition. Et j'insiste bien, à l'heure actuelle de la campagne, il n'est plus question pour la coalition, c'est totalement inopérant, d'essayer de convaincre ceux qui ne votent pas d'habitude la coalition, qui ne votent pas libéral. Là, la question pour Dutton, c'est de motiver, de mobiliser ceux qui sont susceptibles de voter libéral ou ceux qui hésitent pour qu'ils aillent voter.
Est-ce que c'est donc du coup cette fameuse alliance avec le One Nation qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, hein, c'était quelque chose qui était impensable il y a quelques années. Aujourd'hui, cette alliance elle a l'air de se dessiner. Est-ce que ça va dans cette mouvance de dire ok, si vous êtes en train d'hésiter et que le One Nation peut-être peut vous intéresser, bah, votez directement avec nous ou alors faites ces alliances avec ces fameux reports de voix.
La question aussi, la spécificité de ces élections fédérales-là, Christophe, c'est que le leader de la coalition n'est pas un leader libéral, en fait. Dutton est de l'autre partie de cette coalition. Donc, en fait, il y a quand même une frange de ceux qui sont insatisfaits par les politiques des travaillistes qui ne se sentent pas encore de voter pour la coalition parce qu'elle n'est pas menée par un libéral ou par un moderne libéral. Elle est menée, et ça c'est un choix tactique qu'a fait la coalition, par Peter Dutton, qui est plutôt sur les franges à droite de cette coalition. Donc la question, c'est de l'assumer, mais c'est quoi les deux sujets? Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il est en train de faire, hein, Dutton. Il parle énormément de migration, il parle énormément de couper le nombre de visas, même le nombre de visas de backpackers, etc. Il parle énormément de migration et il parle de sécurité. En fait, il a pris les deux thèmes sur lesquels il peut le plus
marteler.
Oui, et couper l'herbe sous le pied de Albanese. Il a essayé d'aller un peu sur le terrain économique, mais pour l'instant, ce terrain-là lui a pas trop réussi. Donc, pour moi, la question, c'est vraiment, maintenant, il reste 5 jours de campagne, enfin un peu plus, mais c'est le long week-end encore une fois. C'est quoi les deux sujets qui pourraient faire pencher les hésitants ou ceux qui, tout simplement, pourraient ne pas se reporter sur la coalition directement? Je pense à ceux qui voteraient. Alors, il n'y en a pas énormément, mais on va mentionner ce parti parce que le nom est rigolo et ridicule, les Trumpet for Patriots. Il faut aussi que les reports de voix marchent, mais ces reports de voix, ils peuvent marcher pour ce parti-là, ils peuvent marcher pour un parti indépendant. Vous pouvez voter indépendant en premier, puis après vous reporter sur les libéraux. Donc c'est vraiment pour moi cette question-là de Dutton. C'est à la fois mobiliser cet électorat encore un peu hésitant et prendre les deux thèmes qui font que ça pourra faire pencher la balance. Ce qui est aussi très peu probable, Christophe, d'arriver au vu de la violence politique de la campagne de la coalition, c'est un gouvernement de minorité emporté par la coalition qui nécessiterait une alliance avec les indépendants. Je ne vois absolument pas les Teals, au vu de la violence proférée à leur égard par la coalition, accepter d'être dans un gouvernement avec la coalition. Donc ça, c'est aussi un choix assez drastique qu'a fait la coalition, de taper fort dessus. Mais alors, s'ils tapent fort dessus, ça veut dire qu'il leur faut une majorité. Et au vu des sondages, ça a l'air compliqué pour Dutton d'y arriver.
Allez, j'ai une dernière question avant de conclure cette Europa Voice. Est-ce qu'on peut avoir une surprise? C'est des élections, on peut toujours avoir une surprise. Ça s'est déjà passé en Australie. Je repense au cas Morrison qui, tous les sondages le donnaient perdant. Il a eu la plus grosse victoire qu'il ait jamais eue quand il a été réélu sur son dernier mandat. Est-ce que la surprise est possible?
Alors, je dirais qu'il y a 4 scénarios. Il y a victoire avec une majorité travailliste. Premier scénario, victoire avec une majorité de la coalition. Deuxième scénario, à mon avis, c'est scénario 1 et 2. Ils n'arriveront pas, ni les travaillistes.
Il n'y aura pas de victoire majoritaire totale de l'un ou de l'autre.
Les deux autres scénarios, c'est gouvernement de minorité pour la coalition. Comme on l'a dit, ça va être compliqué justement de faire cette coalition pour Peter Dutton. La surprise, à mon avis, qu'il peut avoir, mais qui n'est pas la meilleure solution pour l'Australie, c'est que même les travaillistes, qui est le scénario pour moi le plus probable, c'est-à-dire gouvernement travailliste, mais nécessitant une coalition avec les indépendants et les Verts, c'est qu'il n'y arrive pas. Et donc, on se retrouvait dans un hung parliament où il n'y a aucune majorité parce qu'aucune coalition n'a été formée. Pour moi, je ne sais pas si on va appeler ça une surprise, en tout cas, ce n'est pas une très bonne surprise, mais j'ai l'impression que c'est un scénario qui n'a jamais été autant probable. C'est d'avoir une belgicisation ouais. de l'Australie. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir des coalitions complètement contre nature? J'en sais rien. Personne ne sait à ce moment-là. Mais pour moi, c'est peut-être la surprise, on va dire, ou l'élément qui pourrait arriver, qui pourrait faire peur d'ailleurs à la fois aux citoyens et au paysage politique australien.
Parce que c'est en fait possible de pas avoir le résultat le 3 mai.
Ah oui,
on vote le 3 mai, c'est totalement possible que le 3 mai, on ne sache pas qui a gagné.
Non, c'est totalement possible, effectivement. Ouais.
Absolument, ça donnera de l'encre à notre
stylo à plume.
À notre stylo à plume. Merci Nathanaël pour cette Europa Voice.
Merci Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.